Bienvenue sur le podcast de slowtraining.ca, une vision en mouvement. Mon nom est Éric Blais, entrepreneur, amoureux de la vie, enseignant et passionné par le mouvement. Je suis heureux d'être avec vous où vous soyez pour vous partager mes connaissances et mon expertise dans le domaine de la santé préventive, mais aussi mes réflexions et expériences personnelles. Un pas, une respiration et une répétition à la fois.
Comment ça va?
Ça va super bien, toi?
Oui, ça va très bien. J'aimerais ça, premier lieu, j'aimerais ça vraiment te remercier de me donner cette opportunité de parler de quelque chose qui n'est pas toujours facile à parler. C'est, je pense encore, pour certaines personnes, tabou. Fait que je trouve que c'est un don de soi que tu nous fais de nous permettre de parler de ton histoire à propos des troubles alimentaires.
Ça me fait vraiment super plaisir. Puis, en fait, je pense que c'est important qu'on en parle. Par contre, je pense qu'une des raisons, je ne peux pas parler pour les autres, je peux seulement parler pour moi, mais je pense qu'une raison pour laquelle je ne suis pas tant publique avec tout ça, c'est surtout le fait que ça fait longtemps pour moi, il s'est passé beaucoup de choses, puis là, je veux dire, je touche du bois, ça va très bien, tout est vraiment super pour moi en ce moment. Puis c'est juste que pour moi, de revenir toujours à ça, puis d'être cette personne-là, c'est juste de s'ancrer à cette identité-là. Puis oui, ça fait partie de mon histoire, mais c'est comme un des 1000 morceaux de puzzle de c'est qui Audrey Armand. Mm-hmm. Fait que quand c'est pour servir la bonne cause, ça me fait toujours super plaisir, mais je suis pas comme à un stade dans ma vie où je veux me faire la porte-étendard de la cause. Puis ben, ça fait en sorte que ça te rattache juste à ça, puis t'es comme cette personne-là. Mm-hmm. Puis je lève mon chapeau à tous ceux qui font ça, puis au contraire, je veux dire, c'est vraiment incroyable, mais je me sens pas... Je sais pas, c'est comme quelque chose dont j'ai envie de pas me détacher parce que ça fait partie de moi, mais c'est pas, je suis pas que ça non plus.
Tout à fait, tout à fait. Ah ben en même temps, pour te connaître mieux depuis quelques années, je peux témoigner justement que t'es beaucoup plus que ça.
Ouais.
Je veux dire, en même temps, je veux pas non plus dire que t'es beaucoup plus que ça dans le sens où c'est pas important, je crois, d'en parler, puis c'est pas important de mieux comprendre autant que c'est possible de comprendre parce que. Je crois que c'est un trouble qui est à multifacettes. Il y a un paquet de facteurs qui peut amener à et ne pas minimiser la chose, mais en même temps, comme tu le dis si bien, ne pas non plus identifier la personne qu'à ça. Il y a tellement un paquet de facteurs pour, dans le fond, définir une personne.
Ouais, puis c'est surtout en fait que ça a été effectivement un chapitre dans ma vie, mais c'est un chapitre qui est... Je touche du bois encore une fois, qui est fermé, qui est derrière moi. Puis, tu sais, rester là-dedans, c'est comme, OK, non, est-ce qu'on peut, tu sais, est-ce que la vie peut continuer? Puis, il y a tellement plein de belles choses pour moi que pourquoi est-ce que je m'accrocherais à comme gratter puis creuser quand, dans le fond, le travail a été fait? Puis,
gratter le bobo juste pour gratter le bobo?
Ben, du moins, c'est ça, du grattage pour du grattage. Quand c'est le temps de partager dans des moments où, justement, ça peut faire une différence ou que, tu sais, ça me fait toujours super plaisir, mais de m'accrocher pour accrocher, je sais pas, je suis comme vraiment passée à autre chose.
En fait, je suis très content de l'entendre, sérieusement.
Ça ouais, fait... c'est vraiment le fun!
Parce que dans le moment où est-ce qu'on vit ça, c'est pas nécessairement agréable, c'est difficile, ça vient nous chercher à différents niveaux. Justement, il est arrivé quelque chose, je sais pas si t'as entendu, t'avais quelque chose au Super Bowl 51 avec Lady Gaga qui a fait la mi-temps, le spectacle de la mi-temps, et ça a créé une certaine controverse sur les médias sociaux. Et je sais pas si
elle a presque cassé l'Internet, la belle Lady Gaga, avec...
C'est hallucinant. Et justement, j'aimerais savoir de ton point de vue, parce que il y a ce qu'on appelle les « little monsters », les gens qui la suivent et qui la défendent, ses fans, en fait.
Oui, ses fans invétérés.
Exactement. Et il y a aussi tous les « haters », tous les trolls du web qui s'amusent, on dirait, à seulement trouver la bébite et de détruire les gens au lieu de les élever. Et il y a eu dans la troisième portion de sa performance qui était hallucinante, quand tu penses que ça dure, je crois, c'est entre 15 à 17 minutes, quelque chose dans ces zones-là, ça demandait des compétences, des aptitudes physiques assez hallucinantes pour arriver à faire tout ce qu'elle a fait. Et certaines personnes se sont accrochées uniquement à cette petite portion-là où on aurait vu un ventre pas parfaitement plat, pas parfaitement découpé, avec un peu de chair dépassant parce qu'elle avait un. Elle n'avait pas,
Seigneur, ouais.
ouais, elle avait pas un vêtement one piece suit là où tout est
Elle
couvert,
avait une
mais
tenue où on voyait son abdomen, là.
oui, et avec pas un six-pack parfaitement découpé et parfaitement.
Sacrilège.
Donc ça a enflammé le web et j'aurais aimé avoir un peu ton opinion parce que tous les deux, on est à quelque part dans le milieu de l'exercice physique, dans le milieu de l'entraînement, toi principalement au niveau du yoga. Et
Ouais.
moi, anciennement, dans le milieu de l'entraînement physique où je mettais l'emphase, oui, sur ce développement, ce type de développement physique-là où on veut ramener au minimum le pourcentage de masse grasse pour définir, avoir un physique bien défini. Et aujourd'hui, pour toutes sortes de raisons, j'ai évolué vers autre chose. Je ne dénigre pas ça, je ne dénigre pas l'exercice physique qui mène à ce type de physique très, très découpé, pardon, c'est quelque chose, c'est une vision et c'est correct pour les gens qui sont bien là-dedans, qui sont heureux, que ça les rend heureux. Mais je trouve aussi intéressant et important de dire aux gens qu'il peut y avoir également autre chose. Et est-ce qu'on pourrait créer un pont entre les deux? Est-ce qu'on pourrait dire que c'est bien de faire ce qui nous rend heureux. C'est comme Lady Gaga le dit si bien, être heureux dans son corps, être bien avec son corps. Et est-ce qu'on peut se laisser tranquille là-dedans? Et est-ce qu'on peut justement faire la promotion de la beauté sous toutes ses formes, l'exercice sous toutes ses formes? Fait que j'aimerais ça savoir, toi, qu'est-ce que tu en penses?
Amis, je veux dire, l'exemple de Lady Gaga au Super Bowl, c'est un parmi tant d'autres, là. Je veux dire, je pense que tous les personnalités publiques, là, que ce soit à Hollywood ou n'importe où, là, ils sont toujours déchiquetés, là, dans les médias. Mais tant mieux si ça soulève la conversation puis ça engage les gens à discuter de ça. Je veux dire, je sais pas par où commencer tellement que ça me dépasse qu'on parle de ça dans l'actualité, là, je veux dire de la peau de Lady Gaga, parce que si vous ne l'avez pas vue, elle était absolument fabuleuse, mais bon.
Tout à fait, je suis parfaitement d'accord.
Mais bon, peu importe.
C'est vrai que si on compare avec d'autres choses qui peuvent se passer dans le monde, ça peut laisser perplexe de mettre autant d'encre et moi-même d'en parler ici dans ce podcast.
Ouais, mais dans ce podcast, je trouve que c'est quand même dans un contexte où on veut soulever la conversation de
L'image de
l'image
soi,
corporelle, puis
ouais.
de, t'sais, d'être dans l'œil public, puis tout ça. Mais pour en revenir à l'entraînement, je sais pas, je trouvais ça intéressant par rapport à ton premier podcast que tu as fait avec Suzanne, en fait,
Oui,
par
oui,
rapport à. Le titre, est-ce que tu t'es arrêté de se faire suer en entraînement,
oui.
quelque chose comme
Ouais,
ça?
c'était gentil d'utiliser suer, c'était pas exactement ce mot-là. C'était
Non?
plus, non, c'était plus chier.
Ben, en tout cas, mais
Ah,
effectivement.
cessons de se faire chier en entraînement, c'était exactement
Bon.
ça. Ouais.
Mais je suis vraiment une grosse, grosse fan de cette mentalité-là. Je pense que, tu sais, quand tu bouges pour être en santé, puis pour être heureux, tu sais, je veux dire, ton apparence, c'est comme un peu une conséquence de ça. Je veux dire, si ça donne que ça te donne un corps super découpé, ben, tant mieux ou tant pis, dans le sens que c'est une conséquence, mais c'est pas un objectif, tu sais.
En même
Puis.
temps, j'aimerais juste faire le parallèle avec ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que si les gens, c'est leur objectif, en tout cas moi, c'est ma vision, si les gens, c'est leur objectif, mais qu'ils ne se détruisent pas par cet objectif, ils s'élèvent là-dedans, mais pour des raisons qui voient à les aider au niveau global, que ce soit au niveau psychologique, au niveau émotionnel, au niveau physique et même pour certains au niveau spirituel. Ça les aide vraiment à les rendre heureux. Je n'y vois pas d'inconvénient tant aussi longtemps que ça ne les détruit pas. Je
Ouais,
veux juste faire mettre
malheureusement,
cette
on voit ça
nuance-là.
souvent, là.
Ouais, je dois avouer que moi aussi, par le passé, j'ai malheureusement vu ça souvent, que sous l'apparence de bonheur, quand les gens me parlaient derrière la porte, derrière une porte close, et me disait la vérité. Malheureusement, il y avait beaucoup, beaucoup de souffrance, beaucoup de malheur. Mais aux yeux des autres, avec l'image que l'on projette en société et par la pression des pairs, semblait heureux. Et je ne sais pas jusqu'à quel point avec les médias sociaux aujourd'hui, on ne projette pas une image heureuse, mais derrière, un coup que tout est fermé, je ne sais pas, je lance le débat. Je n'ai pas la prétention de détenir la vérité, là.
Non, puis moi non plus, clairement. C'est juste que, tu sais, je trouve qu'on glorifie beaucoup les six-packs et les photos de gens découpés qui mangent de la salade et qui ont l'air donc heureux. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais s'ils sont vraiment heureux, puis je sais pas, j'ai une très forte croyance en l'équilibre puis en le bonheur, en fait. Puis je me dis, le bonheur, c'est, eh oui, manger des trucs équilibrés et qui nous nourrissent et qui nous font sentir bien, mais comme une pizza, c'est vraiment le fun une fois de temps en temps. Et non, mais c'est vrai. Puis l'exercice, est-ce qu'on, tu sais, est-ce que ça peut être juste une façon d'être bien dans son corps, de bouger, puis d'avoir un objectif de santé puis de bien-être, tu sais?
Sans
Vraiment, je.
nécessairement devenir un super-héros ou
Ouais, non. Mais c'est ça, parce qu'en fait, je sais pas, pour moi, le bonheur, c'est la forme la plus. Je pense que c'est le Dalai Lama qui a dit ça. Ça se peut-tu que le bonheur, c'était la forme la plus élevée de santé?
Écoute, je peux pas te dire, n'ayant pas nécessairement lu ou entendu, mais pour avoir lu beaucoup de lui et en parlant de lui dans d'autres livres, disons que ça ressemble à ce que j'ai lu. Pas nécessairement dans ces mots-là, mais ça ressemble, oui.
Fait que pour moi, la santé, ça passe par le bonheur, par le bien-être, tu sais, puis pour le reste, je veux dire, puis en même temps, je veux pas faire de généralité que les gens, tu sais, comme, qui sont vraiment obsessifs avec, tu sais, travailler leur apparence dans un contexte de gym, puis dans un contexte alimentaire, sont tous malheureux, puis ceux qui mangent la pizza, puis qui se donnent un petit peu plus de
Ils
liberté,
sont
sont
tous
hyper heureux,
heureux,
puis
ouais, tout à fait.
Exactement. Ça, je pense que c'est des généralités trop faciles à faire.
C'est très
Mais je pense.
stéréotypé aussi, potentiellement.
Vraiment, mais je me pose la question, il est où l'équilibre entre les deux? Puis je pense que. Je veux dire, personne ne peut se mentir à eux-mêmes, là. Je veux dire, peu importe qu'est-ce que tu mets sur ton feed Instagram ou ce que tu postes sur ton Facebook, c'est toi qui se couches avec toi-même le soir en se disant, ouais, tu sais, je suis pas super bien là-dedans, ou non, waouh, ça me nourrit, puis ça me donne de l'énergie, puis je suis bien, puis
Tout à fait.
ça nourrit mes relations, ça fait moi une personne plus disponible. Fait qu'à la fin de la journée, ça ressemble à quoi ton mouvement, ça ressemble à quoi ce que tu manges, ça a peu d'importance vraiment, en tout cas, je pense.
Ben, dans le fond, ça serait de dire, je crois, pour résumer, il n'y a pas nécessairement de mal ou de bien, c'est de trouver ce qui toi te convient à ce moment-ci, ton évolution personnelle et ce qui te permet de grandir comme individu.
Vraiment, puis pour revenir à Lady Gaga et le Super Bowl, non, mais je trouve ça d'une tristesse absolument abominable de voir, tu sais, comme t'sais, les gens, en fait, ils postaient des commentaires vraiment.
Très méchant. J'en ai lu quelques-uns des haters. C'était
Oui,
vraiment
horriblement.
très, très, très méchant, là.
Vraiment. Puis je trouve que la tristesse de ça, c'est que je pense que les. Puis encore une fois, je ne vais pas faire de généralité, mais je pense qu'il y a tellement une critique forte de l'autre, mais qui vient aussi d'une critique tellement forte de soi. C'est un peu comme symptôme que, tu sais, les gens s'acceptent tellement pas que c'est comme inconcevable de ne pas avoir un six-pack à la télé nationale. Ben, si je me dis, c'est ce que ces gens-là écrivent, je veux dire, qu'est-ce que ça dit sur eux, sur leur capacité de. De se voir dans leur entièreté, d'être bien avec
De
eux-mêmes.
s'aimer soi-même.
Ben, entre autres, tu sais, puis comme. Ouais, non, je sais pas si tu comprends un peu où
Oui,
est-ce que je vais en venir avec
tout à
ça.
fait, tout à fait. Oui. Ben, c'est sûr que c'est délicat parce que, comme on dit, chacun est unique, c'est du cas par cas. Puis, qu'est-ce qu'on dit versus ce qu'on pense, ça peut être deux choses complètement différentes. Ce que l'on projette aux autres, pour toutes sortes de raisons, peut être très, très différent, avec ce qui se passe à l'intérieur.
Non, clairement, là. Clairement. Puis je trouve ça vraiment super, malgré le fait que ce soit comme super triste, tous ces commentaires-là, puis les débats sur un abdomen. Je veux dire, on s'entend qu'un abdomen, ça fait partie d'un habit de chair qu'on a communément appelé un corps.
Oui.
Je trouve ça, c'est juste ça me dépasse, mais je me dis tant mieux si ça soulève la conversation, si ça ouvre la porte à.
À aller peut-être plus loin dans ça et d'en sortir, en tout cas, je l'espère, d'en sortir grandi et non de s'entre-déchirer davantage.
Vraiment, puis comme, tu sais, en fait, tu sais, tout à l'heure, tu disais, ah, oh, tu sais, en plus, sa prestation était très longue, c'était très exigeant physiquement.
Tout à fait.
Effectivement, chapeau, tu sais, c'est une preuve de son espèce de force, endurance physique. Mais tu sais, comme je vais y aller comme une étape plus loin, même si elle avait chanté une chanson assise sur un tabouret à ne rien faire, c'est quoi? Elle n'a pas le droit de le faire si elle a un minimum de matière adipeuse sous la peau? Comme, tu comprends? Je veux dire, pourquoi? Tu sais, comme, à mon avis, on n'aurait même pas à justifier, j'ai peut-être un ventre, mais je peux faire des backflips. Puis que même si, tu sais, puis je veux dire, puis que c'est juste correct, comme, j'ai pas à justifier mon existence, là.
Ben, c'est un petit peu en fait ce qu'elle disait, hein? Parce qu'elle a répondu très rapidement, justement, en disant, ben, je suis fière de mon corps, vous devriez être fière du vôtre également. Et
Ouais.
donc, ouais. Mais je pense qu'elle s'est battue longtemps aussi, elle continue, c'est un peu le message qu'elle tente de passer. Sans dire que je suis nécessairement un grand fan, je dois avouer que de voir tout ce battage médiatique-là pour ça, j'ai fait, OK, qu'est-ce que ça doit être de vivre dans sa tête, de vivre dans sa peau? Parce que je veux dire, t'es pris avec tes pensées, tu restes avec ça. Donc, il y a des gens qui, dans l'anonymat, vivent potentiellement la même chose, mais elle le vit sous le regard des projecteurs en continu de façon mondiale. Je peux même pas m'imaginer ce que ça peut être.
Ah non, c'est phénoménal,
C'est quelque chose. Bref.
vraiment là. On pourra en parler longtemps,
Ah
mais
oui. Mais
non,
j'aimerais,
c'est
tu sais,
officiel.
ça nous mène quand même vers toi, ton histoire. Ce que j'aimerais aborder, dans le fond, c'est j'aimerais savoir pour les gens qui, malheureusement, peut-être vivent un début de trouble alimentaire, qui sont dedans. Comment toi, tu penses que ça a commencé? Est-ce que tu as un point de référence qui te dit, OK, il s'est passé telle chose, soit que dans ma tête, soit un événement marquant, soit, je sais pas. Est-ce qu'il est arrivé quelque chose?
Bien sûr, je peux seulement, en fait, parler de moi, parler de mon histoire. Je peux vraiment pas parler au nom de tous les autres.
Tout à fait.
Mais une chose, en fait, que j'ai constatée, tu sais, dans les années de traitement où, tu sais, j'ai pris soin de moi, puis bon, tout ça, j'ai pris les mesures nécessaires là, pour éventuellement là, aller mieux. J'ai rencontré beaucoup de gens dans tout ça. Puis je pense vraiment que je peux dire avec certitude qu'il y a autant de personnes qui ont un trouble alimentaire qu'il y a autant de façons de le vivre et de raisons de l'avoir.
OK.
Comme je pense qu'il doit y avoir 50 millions de raisons d'avoir un problème d'alcool ou de jeu, oui, je pense qu'il y a certaines tangentes qui sont peut-être probablement communes, puis tout ça, mais pour avoir rencontré là, des gens de tous les. Toutes sortes de vies, toutes sortes d'histoires, toutes sortes de. Franchement, tout le monde avait comme ses raisons, puis il y en a, c'était. Ça commençait avec vraiment des traumas vraiment forts, d'autres, c'était plus insidieux. Pour moi, ça a vraiment été plus ça. Pour moi, il n'y a pas eu un trauma spécifique là, qui a comme tout déclenché. Pour moi, ça a été vraiment un truc vraiment pernicieux, que ça commence, tu sais, par. Bon, tu sais, je saute un repas, deux, trois affaires, puis là. T'sais, des années plus tard, là, ça a dégénéré en la totale hospitalisation. On en parlera si tu veux, là, mais.
Ben, parce que tu disais, je sais que tu es allé justement en hospitalisation lorsque c'est devenu absolument nécessaire.
Oui, en fait, moi, je suis arrivée à un point où j'étais plus fonctionnelle dans ma vie de tous les jours. Dans le fond, à mon pire, là, je veux dire, j'étais une jeune adulte autonome, je venais juste de graduer de l'université. J'avais un travail, mon appartement, je veux dire, j'étais hyper fonctionnelle dans ma vie. Mais à ce point-là, j'étais tellement malade que éventuellement, ma famille ont fait, OK, ben là, on est désolé, là, on peut pas te laisser aller comme ça. Donc, j'ai dû, en fait, faire une cessation de bail sur mon appartement. Mes parents m'ont ramenée à la maison, mais ça n'a pas été long que je me suis fait hospitaliser, là, je ne pouvais pas rester à la maison. Puis je pouvais plus travailler, je veux dire, j'étais pas juste mentalement malade, mais j'étais physiquement malade, là, je veux dire.
C'est quoi les symptômes, que ce soit physique ou mental, les plus majeurs, les plus marquants?
Quand j'étais dans le pire du pire?
Ben, quand à un moment donné, tu arrives, là, tu fais OK, là, ça marche plus, là, ma vie, c'est un cyclone, là, il n'y a plus rien qui se passe, il n'y a plus de son, plus de lumière, il faut qu'il se passe quelque
Ouais,
chose, là.
ouais. Ben, je pense que. Puis je veux pas utiliser des mots qui n'existent pas, là. Je veux dire, je ne suis ni thérapeute ni psychologue, là. Clairement. Mais par exemple, je pense que c'est quelque chose que j'ai entendu quand même de plusieurs fois. C'est que je pense que pendant plusieurs années, il y a beaucoup de filles, incluant moi, ce que j'ai fait, c'est que tu es une anorexique fonctionnelle. Donc, tu as clairement un problème alimentaire, mais tu arrives à maintenir des relations pas nécessairement de qualité, mais tu arrives à les maintenir. Tu peux continuer d'aller au travail, même si c'est quelque chose, mine de rien, tu maintiens une vie à l'apparence normale. Et à un certain point, ben là, ça dégringole et là, ce n'est plus possible. Puis à un moment donné, je pense que oui, on parle clairement du domaine de la maladie mentale, mais ça reste qu'une composante physique où tu es en dénutrition et en malnutrition extrême, là. Fait que quand tu es dénutri comme ça, ton cerveau ne fonctionne plus.
Oui, tout à fait, tout
Parce
à
que,
fait.
je sais pas pour les gens à la maison, mais moi, comme personne, je veux dire, comme rétablie et entre guillemets normale, moi, c'est après 3 heures là, que j'ai pas mangé, là, comme je les fais, je suis plus, là. J'ai besoin d'un snack, là. Fait que, imagine ça fois 1000, le cerveau ne fonctionne plus normalement. Fait que toute prise de décision, tout, je veux dire,
J'imagine
comme.
les émotions, ça doit être très difficile. Comme tu dis, la pensée raisonnée, ça doit être difficile.
Tout est complètement. T'es comme à côté de ton corps, à côté de ton cerveau.
Mais
Je veux
qu'est-ce que
dire, imagine.
tu... Oui, excuse-moi.
Ben, j'allais juste donner l'exemple. Je veux dire, imagine que tu manges pas pendant 15 heures. Essaye d'aller au travail, de fonctionner, de penser, de faire des choix. Je veux dire, c'est pas dans le domaine du possible.
Mais tu sais, tu disais justement, tu es comme à côté de la plaque, à côté de ton corps, puis... Mais qu'est-ce que tu vois? J'essaie de me placer dans la situation. Je sais pas moi, que ce soit le rapport avec la balance, je sais pas si tu étais une balance
Oui,
freak, là,
j'étais
où
très
t'arrêtes
obsessionnelle. Oui,
jamais,
j'étais.
obsessionnelle, là, sur la balance. Est-ce que dans le miroir, qu'est-ce que tu vois? C'est quoi tes repères pour faire... Je reste fonctionnel, dans le fond, j'en ai pas de problème. J'imagine que pendant un certain temps, tu es dans le déni total, mais est-ce que tu vois qu'il y a quelque chose qui marche pas? Est-ce que tu le ressens qu'il y a quelque chose qui marche pas? Le déni est tellement fort que tu as l'impression que tout va bien.
Encore une fois, tu sais, je peux juste parler pour moi, mais
Tout à fait,
dans
tout à
mon cas,
fait.
il y a vraiment eu des étapes. Tu sais, je pense que dans mon cas, au début, il y avait beaucoup de, ben, j'ai pas vraiment de problème. Puis, tu sais, dans le fond, je gère. Tu sais, c'est mon style de vie. C'est comme ça que, je sais pas, je gère mon quotidien.
Tu trouves des réponses dans le fond à chaque fois. Il y a toujours une bonne
Oui,
réponse,
vraiment.
là. OK.
Ben, c'est comme n'importe quelle question que tu tapes sur Google, tu vas trouver la réponse que tu veux entendre, là.
Ouais.
C'est vraiment ça. Donc, je pense que j'ai, tu justifies longtemps. Pour moi, je pense que une des raisons vraiment primaires, là, pourquoi j'ai développé un trouble alimentaire aussi sévère, là, je pense que j'avais vraiment une difficulté à communiquer mes émotions. Puis à mettre le doigt dessus, puis à mettre le mot dessus. Fait que pour moi, verbaliser qu'est-ce qui va pas, comment je me sens, ce dont j'ai besoin, c'était tellement, même pas difficile, c'est juste que c'était tellement loin de moi que tout ce que j'avais, c'était des agissements, tu sais, plutôt que de dire, de verbaliser ce dont j'avais besoin ou ce qui allait pas. Fait qu'éventuellement, moi, c'était comme ma façon de dire, ben, je suis pas bien, pour moi, ça va pas.
Donc, tu
Fait que
faisais
pour
le
moi, ça a été
contrôle
vraiment.
de ton corps par l'absence de nourriture parce que tu ne mettais pas dans ton corps. C'est ta façon de verbaliser les émotions que tu n'arrivais pas à faire sortir. Est-ce que c'est ça qu'il faut
Vraiment,
comprendre?
ouais, ben en fait, c'est ça. Pour moi, c'était comme une façon, ben, je me sentais vraiment en perte de contrôle total. Fait que là, tu te donnes la fausse impression que tu contrôles ta vie parce que c'est une vie tellement difficile. Ça, c'est un peu le running gag, tu sais, avec des amis vraiment proches ou, tu sais, ma famille, tout ça. Parce que, tu sais, éventuellement, je me fais beaucoup poser la question, ah, tu sais, les rechutes, est-ce que ça te fait peur? Puis tout ça. Puis là, aujourd'hui, ça fait tellement d'années que, tu sais, on peut en rire, puis on est au point où on peut, tu sais, bon, avec mes amis proches, un peu déconner avec ça, mais je leur dis tout le temps, je suis bien trop paresseuse pour faire une rechute, là, c'est une job à temps plein, faire ça, là. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une vie horriblement difficile. Puis c'est pas parce que tu manges plus que t'as plus faim, là. Moi, j'avais horriblement faim.
Mais comment tu fais pour couper, te faire, tu do a shutdown, tu sais, tu dois fermer ce signal-là, tu dois en faire abstraction. Comment tu fais? J'essaie de comprendre, puis moi qui adore manger, je fais, OK, comment je peux faire un shutdown de ça?
Oui,
À part si tu es dans une situation de survie extrême, tu sais, je veux dire, je pense qu'on est dans un pays ici où on a une nourriture en abondance, on peut même dire en surabondance en termes d'environnement
ouais.
alimentaire, puis ça, c'est un autre problème où on pourrait en parler longtemps.
Oui.
Mais je me dis, justement, comment tu réussis à faire abstraction de cet environnement alimentaire-là qui crée cette surabondance et nous pousse à manger toujours davantage? Il appelle ça en anglais le concept du eat more. Et de ne pas céder à ça, ça prend quoi? Une force mentale? Ça prend, ou c'est la maladie qui fait un switch dans ta tête, c'est.
Ben en fait, je pense qu'il y a vraiment deux facteurs. Tu sais, tu me dis, ça semble te dépasser en voulant dire, aïe, aïe, ça, c'est comme ça me semble impossible. L'intensité que tu me décris à, mais voyons, ça n'a pas d'allure, c'est impossible. Ben dis-toi que la détresse qui accompagne cet état-là, c'est ça qui fait en sorte que tu peux naviguer ça. C'est dans un état de détresse psychologique tellement profonde que même si c'est intense, c'est comme, non, non, là, je suis tellement en détresse que ça, c'est comme, c'est secondaire.
Donc, c'est plus fort de dire je dois me retenir que de dire je peux manger. Tu te sens mieux dans ta détresse que. OK.
Oui. Ben, en fait, c'est dans les troubles alimentaires, il y a comme tellement de profils puis de façons de vivre ça parce que, tu sais, tu as des gens qui ont un profil plus anorexique ou boulimique ou un peu des deux. Puis pour des personnes comme moi, dans mon cas, c'était vraiment que de l'anorexie. Puis pour moi, quelque chose, tu sais, dans ma détresse, pour moi, quelque chose qui était très réconfortant, c'était d'avoir le ventre vide. Sentir la faim, ça me réconfortait, j'imagine parce que ça me donnait une sensation de contrôle. Mais pour moi, d'une façon absolument très, très, très malsaine, pour moi, c'était réconfortant. Mais si je devais manger pour une raison X ou un autre, là, tu sais, un engagement social que là, à un moment donné, tu ne peux plus cacher, il faut que tu fasses semblant puis que tu manges quelque chose, ça, la détresse qui venait avec ça, c'était inexplicable.
Ben justement, toi, tu m'amènes là sans le savoir, mais tout le côté social, tout le côté, je vis en société, que ce soit avec mes proches, avec, je sais pas si tu avais à ce moment-là un copain,
Ouais.
et tout, comment la famille, comment les amis, comment les collègues, le chum, la blonde, whatever, comment tu fais pour cacher ça? Je veux dire, les gens doivent le voir, ils sont pas dupes. Ils doivent se sentir un moment un peu désemparés de ne pas pouvoir t'aider ou du moins faire quelque chose.
Vraiment. Non, les gens, je veux dire, voient clairement à travers tout ça. Je pense que par contre, il y a des degrés. Tu sais, je pense qu'en début de maladie, c'est comme tellement pernicieux. Puis l'affaire, c'est que tu deviens une. En tout cas, pour moi, j'étais devenue une excellente menteuse par omission. Donc, tu mens pas vraiment, on ne te pose pas de questions, mais tu omets des détails. Ou, tu sais,
Tu poses pas les
tu deviens.
questions, tu veux pas de réponse.
Et voilà. Et tu deviens tellement bon à. Cacher certains trucs, t'arranger pour arriver dans des événements, puis t'es comme, ah oh oui, j'ai déjà mangé, ou je veux dire, la liste, est, je veux dire, je pourrais t'écrire un livre, Comment développer un trouble alimentaire en deux étapes faciles. Mais Dieu merci, je n'écrirai jamais ce livre, et j'espère que personne ne le fera jamais. Mais bref, tu trouves plein d'astuces, de petits mensonges blancs où. T'arrives à ne pas t'exposer, bien sûr, au jour où là, ta perte de poids est tellement drastique qu'à un moment donné, je veux dire, les gens ne sont clairement pas cons, puis qui voient vraiment ce qui se passe, mais en même temps, les gens, tu vois qu'ils sont tellement mal, mais restent qu'ils sont incapables de dire, hey, on se connaît pas tant, mais je peux pas te dire ça. Ou même tes proches savent que tu es tellement pas bien qu'ils ont peur de te perdre.
Mais ça, justement, je me dis, Une des questions qui me vient en tête, c'est qu'est-ce que tu peux dire pour aider la personne et qu'est-ce que tu ne dois pas dire? Tu sais, de dire, exemple, à une fille qui a perdu du poids, on est dans une société qui recherche constamment la perte de poids, je pense que c'est assez clair. On entend ça sans arrêt. Est-ce que dans une situation comme ça, une fille, exemple, qui est dans la maladie, fortement dans la maladie, qui est dans le déni, qui est dans la prise de contrôle par la perte de poids, comme toi, exemple, qui était purement anorexique, comme tu me l'as dit, de dire à une fille qui a perdu du poids, t'es belle, blablabla, blablabla, parce que dans la société, on valorise justement un certain type de physionomie féminine, est-ce que là, tu viens de.
Ah, ben là, ça, c'est la boîte de Pandore, là.
Tu vois où je veux m'en venir? Je cherche le mot, les mots, mais.
Ça, c'est la boîte de Pandore, en fait. Puis, avec le recul, puis, tu sais, en fait, puis ma réflexion avec les années, elle a vraiment évolué, changé, elle s'est modulée parce que, bon, tu as la vision quand tu es, comment on dit en français, en recovery, en fait, tu es en traitement.
Oui.
Puis là, éventuellement, ben là, tu es comme fraîchement recovered, si on peut dire, tu sais, mais t'es encore fragile, mais tu vas bien. Et après ça, il y a des années qui passent. Puis là, au jour où on se parle en ce moment, ben, je veux dire, comme ça fait quand même de nombreuses années que c'est derrière moi, puis ça fait de nombreuses années que j'ai une vie, tu sais, je veux dire, comme tout
Équilibré.
le monde, pas parfaite, mais heureuse et stable. Et je veux dire, tout va bien. Et aujourd'hui, avec le recul, je veux dire, qu'on parle de quelqu'un avec un trouble alimentaire ou non, je veux dire, je vois pas pourquoi qu'on devrait parler de poids. Pas parce que ça devrait être tabou ou quoi, mais je veux dire, de quel droit est-ce qu'on commente l'habit de peau de nos voisins? Puis en fait, on sait jamais, tu sais, je veux dire, souvent les gens veulent bien faire, ils vont passer des commentaires du genre, oh wow, t'as perdu du poids, t'as
T'es
l'air
bien
bien.
belle, ouais.
Exactement. Puis je veux dire, tu sais pas, je veux dire, peut-être que cette personne-là, je veux dire, elle a la leucémie, là, ou peut-être que elle vit un moment très difficile dans sa vie, ou je veux dire, mince ne veut pas dire heureux, succès, tout va bien, et dodu, enveloppé ne veut pas dire échec et je n'ai pas de contrôle sur ma vie non plus.
De se
Un
garder une petite
dégage de
gêne dans
l'autre.
le fond avant d'émettre un commentaire et peut-être de projeter un peu plus d'empathie, de résonance empathique pour.
Ben, je veux dire, je pense que, tu sais, que les gens utilisent le poids pour faire des commentaires négatifs, en tout cas, ben, ça, on n'ira pas là-dedans parce qu'on prend à parler, là, je veux dire, c'est bon. Mais d'utiliser le poids comme commentaire positif, je me dis, il y a tellement d'autres choses à commenter. Puis au pire du pire, si tu veux commenter sur l'apparence de la personne, tu sais, tu peux dire, tu as l'air bien, tu as l'air rayonnante. Parce que dans le fond, c'est ça que tu veux dire, c'est pas. Tu ne veux pas nécessairement commenter sur le vrai poids sur la balance. Dans le fond, quand tu veux faire un compliment, guillemets, comme ça, c'est pour dire « Wow, tu as l'air rayonnante ou vibrante, tu sais. » Mais non, c'est ça. Mais dans le cas, je pense, des cas de troubles alimentaires, parler de poids, je pense que c'est vraiment là, une très mauvaise idée, là, parce que bon,
Parce que là, à ce
on
moment-là,
parle pas de.
si toi, tu es dans la maladie, dans le fort de la maladie, est-ce que ça peut même à quelque part valider ton comportement de te faire dire que tu es belle si tu as perdu du poids? À ce moment-là, est-ce que tu vas être encore plus forte, si je peux dire ça, dans ton comportement?
Ouais. Ben en fait, pour moi, quand je me faisais dire ça, c'était comme une espèce de double tranchant. D'un côté, ça me donnait du gaz, j'étais comme waouh, ça marche, puis tu sais, ça m'encourageait à aller là-dedans. Ça me poussait vraiment. Mais d'un autre côté, ça me détruisait de me faire dire ça parce que c'était comme me faire dire, tu vois pas à quel point je vais mal. C'est comme tu vois pas à quel point je suis en train de me désagréger comme être humain, physiquement, psychologiquement, émotionnellement.
Puis dans le fond, c'était
Fait
un
que d'un
peu
autre
quasiment
côté.
comme un cri du cœur que tu lançais. Puis là, c'est comme si on te disait, je te dis que je vais pas bien, puis tu es en train de me dire que je suis à mon mieux.
Ouais, puis t'es comme, hey, wow, tu sais. Fait que pour moi, ça faisait vraiment les deux. Ça me faisait un petit velours de, hey, oui, puis je vais continuer, puis je vais y aller encore plus intense. Puis en même temps, c'était comme, wow, ma détresse, t'es complètement.
T'es pas là, là, tu vois pas ce que je t'écris, là.
Oui, là, vraiment.
OK. OK. Wow. Fait que Il faut comprendre dans le fond que c'est ultra complexe dans le sens où chaque personne est unique dans ce malheureux passage de vie-là. Je ne sais pas si c'est les bons mots, mais...
Oui, non, c'est ça. Puis l'affaire, c'est que, comme dans n'importe quoi, bien sûr, il y a des clichés. Puis les clichés, en général, ne sont pas nécessairement faux. C'est pour ça qu'ils sont des clichés. Mais reste que je pense qu'il y a tellement de causes, de raisons. C'est multifactoriel, c'est complexe. Je pense que, tu sais, il ne faut pas faire abstraction de ça. Puis, tu sais, tout à l'heure, tu me posais la question, tu sais, qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un, tu sais, de qui on se soucie, on est
Oui,
inquiet?
oui. Qu'est-ce qu'on peut dire
En
pour
fait,
essayer d'aider les choses quand on se sent des... Parce
c'est
que
ça.
on peut se sentir désemparé, on peut se sentir... Je vois la personne, une personne qui m'est chère devant moi, je le sais ce qui se passe, mais je ne sais pas quoi dire.
Vraiment. Puis, je vais revenir à ça, mais avant de te répondre, une chose en fait qui me fait vraiment quelque chose, puis je me dis, waouh, c'est que souvent, on en arrive à des cas tellement dramatiques, puis je veux dire, c'est vraiment les extrêmes, puis c'est vraiment, la maladie est vraiment avancée. Je me dis, waouh, tu sais, si on s'était parlé au début, quand c'était comme pernicieux, c'était comme j'allais pas bien, mais c'était pas des comportements extrêmes, puis tu sais, pourquoi attendre de se rendre là?
Ouais.
Tu
Oser dans le
sais,
fond.
oui, puis en fait, je pense que, puis encore une fois, tu veux dire, je suis pas thérapeute ou rien, puis bon, il y a des ressources pour ça, mais je pense qu'avant de parler de poids ou de dire je vois que tu manges pas ou je vois tes comportements alimentaires ou en fait mentionner vraiment ça, je pense qu'il faut plus dire t'sais, un peu comment tu vas, est-ce que tu es stressé, qu'est-ce qui se passe? Puis comme plus ouvrir la porte au dialogue, pas tant par rapport à la nourriture, mais plutôt à l'état d'âme ou qu'est-ce qui se passe, t'sais, parce qu'en fait, une chose que je dis souvent quand je parle de ça, c'est que pour moi, le trouble alimentaire ou l'absence de nourriture, c'est un symptôme, c'est pas la cause.
Ça
Comme les
cache
gens
un
qui...
malheur beaucoup plus grand.
Oui, mais c'est comme les gens qui ont un problème d'alcool. Je veux dire, c'est pas parce qu'ils aiment la bière, là. Je veux dire, c'est un symptôme de ce qu'ils vivent. Puis les gens qui ont un trouble alimentaire, mais eux, je veux dire, la nourriture, c'est le médium qu'ils ont choisi. Mais ça reste que c'est un symptôme. Fait que je pense que d'aborder des discussions beaucoup plus sur le bien-être de la personne ou de faire au moins sentir la personne, lui faire sentir qu'elle est en confiance, qu'elle peut être en confiance. Parce que déjà qu'il y a tellement de cachotteries, de craintes, c'est une maladie où on est vraiment très isolé et très seul parce qu'on repousse tout le monde. Je veux dire, j'ai repoussé beaucoup d'amis et beaucoup de gens autour de moi, là. Fait qu'au moins, je pense d'essayer de maintenir le lien. Déjà là, c'est énorme. Et vraiment, là, comme
Dans le fond,
pour
c'est
les
d'être
amis qui
là,
restent.
c'est de démontrer qu'on, dans le fond, c'est d'être là, c'est de démontrer qu'on est présent avec tout notre cœur, puis d'être prêt pour lorsque la personne sera prête, ou tu dois pousser un peu quand même.
Pardon? Oh my God, Eric, c'est tellement complexe, là. C'est sûr et certain, je pense que comme amis ou famille ou copains, t'sais, pour tous les gens autour de la personne, c'est excessivement difficile, là. Puis je pense que faut pas minimiser ça, parce que oui, ce que la personne malade vit, c'est très, 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 très intense. Mais pour les proches qui voient la personne en train de disparaître, puis qu'ils se sentent impuissants, c'est vraiment, vraiment difficile pour eux. Je pense que c'est vraiment important d'aller voir de l'aide, d'avoir de l'aide pour soi là-dedans, t'sais. Bien sûr. Puis je pense que, comme dans n'importe quoi, quand la personne n'est pas prête, elle n'est pas prête. C'est juste que malheureusement, ce qui est difficile avec une maladie comme ça, c'est qu'en général, la personne n'est jamais prête avant d'être dans le fond du baril. Puis ça, c'est crève-cœur, t'sais. Puis, pour être honnête avec toi, avoir été prise en charge avant, je ne sais pas si j'aurais eu un traitement aussi efficace parce que j'avais pas encore comme accrocher un fond assez
toucher
solide,
le fond,
mais je
ouais.
sais pas.
Pour dire j'ai
Ouais.
envie vraiment profondément de m'en sortir. C'est un peu triste pareil quand on y pense, de se rendre si
Vraiment.
loin.
Vraiment, alors que dans le fond, peut-être que si vraiment plus jeune, quand ça a commencé pour moi, puis que ça se manifestait par des comportements alimentaires malsains, mais ben, c'était pas ça le réel problème, que, tu
Ouais.
sais, si j'avais pu, je sais pas, avoir des outils de communication, peut-être aller consulter, tout
Ben,
ça.
justement, tu ouvres la porte vers les ressources. Donc, est-ce qu'il y aurait des ressources? Parce que, bon, t'étais allé à Douglas pour te faire aider à ce moment-là, pour être
Ouais.
hospitalisé. Est-ce qu'il y a des ressources que les gens devraient connaître, des choses qui, quand tu es dans la souffrance, dans la difficulté, que ce soit les gens qui sont autour de cette personne qui vit la maladie ou la personne même, est-ce qu'il y a des ressources vers lesquelles on devrait se tourner le plus rapidement possible, selon toi?
C'est sûr, malheureusement, c'est vraiment pas évident, parce que je pense que comme un peu tout ce qui touche en général les maladies mentales, c'est pas comme se casser une jambe où là on va te chercher en ambulance, on va vraiment te passer, là, on va prendre soin de toi, on va t'arranger ça. Tout ce qui est vraiment ce qui touche la maladie mentale, c'est un accès beaucoup plus difficile. Pas impossible, mais beaucoup plus difficile. Puis je pense que le plus tôt, le mieux. Malheureusement, à part quelques organismes, j'ai jamais bénéficié de leurs services. Moi, j'ai jamais été avec eux, mais je sais qu'il y a un groupe qui s'appelle ANEB, c'est Anorexie Nerveuse et Boulimie, du Québec ou quelque chose. Ils ont un site internet, ces gens-là, ils ont des groupes de support pour les familles, les gens qui souffrent de troubles alimentaires, mais à part des organismes comme ça, pour être vraiment pris en charge, il faut comme passer par l'espèce de système public, tu sais. Comme par exemple, moi, avant d'avoir été traitée à l'hôpital Douglas pour vraiment un traitement spécifique, parce que là, rien n'allait plus, je me suis fait hospitaliser 2 fois dans un hôpital régulier, là.
Ou s'ils n'ont peut-être pas ce qu'il faut pour traiter ce genre de trouble-là.
Ben, en général, les hôpitaux grand public, là, je ne sais pas comment tu nommes ça, mais ils n'ont pas le département ou les services pour ça en général. Ouais. Puis à un moment donné, je veux dire, il y a aussi quand tu arrives à un certain degré de maladie, tu sais, je veux dire, si tu es rendu à 75 livres, je veux dire, à ce point-là, faut pas que tu ailles voir le psychologue, il faut que tu te fasses
Oui,
hospitaliser, là, je veux
là,
dire.
oui. Parce que physiquement, tu es en train de disparaître, là.
Ouais, c'est ça. Fait que je pense qu'il y a aussi, ça dépend, tu es rendu à quel degré, tout ça. Mais c'est sûr, le plus tôt, le mieux. Puis je sais pas si les gens peuvent avoir accès dans les CLSC ou au privé avec des thérapeutes, tout ça, mais bien sûr, c'est long. C'est quelque chose qui se dégrade tellement vite que plus tu attends, c'est comme la carpette te tire sous le pied très vite.
Donc, tu dirais, mettons, pour essayer de donner une idée aux gens, soit comme je te disais, qui vivent ça, ou bien les gens qui autour voient la personne malheureusement se détériorer, ce serait quoi le premier réflexe à faire le plus rapidement possible pour faire un peu un résumé de l'idée, là?
C'est fou parce que, étrangement, je veux dire, j'ai été cette personne, puis malgré ça, j'ai de la difficulté à te répondre parce que, au stade où moi je me suis fait prendre, c'était un stade vraiment extrême, où là c'était une urgence médicale, puis il y avait le feu,
Ben là, c'est
là.
genre, tu fais rien, tu meurs. C'est carrément.
Ben, c'est un peu ça.
C'était. Ouais.
Non, c'est ça. Puis malheureusement, ce qui est vraiment pas évident, c'est que quand t'es malade comme ça, ça dépend des degrés, encore une fois, t'arrives à un certain point où t'en veux comme pas d'aide. Puis que les gens te tendent des perches, puis tu les prends pas parce que c'est tout ce que tu connais, puis fait que c'est vraiment pas
Mais
évident.
comme
Fait
tu
que c'est
dis, en plus,
sûr.
le cerveau, il fonctionne pas bien, là. Il est sous-alimenté. Il a pas
Non,
toutes
fait que
ses
ta réflexion,
capacités pour la réflexion, là.
non, puis en fait, là, je peux même en fait te dire qu'en traitement, là, tu passes tes journées, tu es hospitalisé, puis là, comme là, j'étais à Douglas où j'étais traitée spécifiquement pour ça. Après des semaines de là, ils te réalimentent, là, tu reprends un cycle normal, puis ça fait des années que tu n'as pas vraiment mangé. Il se passe comme une espèce de printemps dans ton cerveau où c'était gelé, 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 là. c'était très flou, puis il y avait comme un genre de voile, puis t'es comme un peu à côté de toi-même. Puis là, c'est comme si ça, tout ça, ça fond, puis tes capacités reviennent. C'est comme la meilleure image que je pourrais te donner.
Dans le fond, c'est que là, ton cerveau il est suffisamment nourri pour être en mesure d'avoir une réflexion, d'avoir une pensée réfléchie.
Exactement. Puis tu sais, un exemple un peu, un peu comique, je veux dire, quelqu'un de normal qui ne mange pas pendant 15 heures, il va se pogner avec son chum ou sa blonde, là, parce qu'il ne pense plus. Là. C'est dans quelque chose de ça, tu vois, comme l'humilité.
OK.
Je veux dire, tu n'es pas en mesure de réfléchir, de prendre des décisions ou juste d'articuler comment tu te sens.
Disons que je suis content de constater, au vu de ta réflexion, de ta pensée réfléchie, que tu es sur ben, non seulement sur le chemin de la guérison, tu n'es pas sur le chemin de la guérison, tu as passé au travers et de voir que c'est non seulement possible, mais tu es rayonnante, tu es lumineuse, tu es pleine d'énergie. Pour avoir fait un de tes cours en yoga, j'ai vu à quel point tu as de l'énergie. Et c'est le fun de voir ça. Je t'ai pas vu au moment de la maladie. Je te connaissais pas à ce moment-là.
Donc, je n'aurais pas reconnu.
Ben, possiblement que non. Mais j'ai pas d'élément de comparaison. Mais en même temps, je suis très heureux de voir comment dans tes yeux, il y a de la vie. On se voit à travers la caméra, la webcam actuellement pour l'entrevue. Mais je suis vraiment content de voir que il y a un espoir, il y a une possibilité de guérison et de passer à travers ce moment extrêmement difficile. Et non seulement ça, je m'avance peut-être, mais je suppose que tu en as développé une encore plus grande empathie pour l'être humain, pour les gens que tu côtoies, pour les gens qui malheureusement vivent ce que tu as vécu. J'imagine que tu as une humanité encore plus grande aujourd'hui.
Ah, c'est clair, je veux dire. Ouais, puis en plus, non seulement, tu sais, je veux dire, je suis professeure de yoga, je travaille en entraînement, puis en ce moment, je fais mes études en ostéopathie. Je travaille beaucoup dans ce domaine-là, je travaille avec des corps, je travaille avec des gens, puis tu sais, de voir. Parce que tu sais, aujourd'hui, ensemble, on parle de troubles alimentaires, mais on pourrait aussi parler de tout ce qui est image corporelle, tu sais, puis il y a des gens qui ont des comportements alimentaires un peu malsain, des problèmes d'image corporelle, mais sont comme un peu sous-diagnostiqués, puis ils vivent des souffrances réelles, tu sais. Mm-hmm. Puis j'en ai beaucoup autour de moi, justement dans le domaine de, tu sais, du mouvement, puis tout ça. Comme j'ai des gens très, très heureux et très équilibrés qui sont juste contents de bouger, mais je vois aussi beaucoup de gens qui se fouettent pour bouger parce qu'ils pensent qu'ils doivent le faire, qu'ils doivent avoir l'air de d'avoir une certaine apparence. Puis j'en vois beaucoup, puis je pense que ça m'outille en fait pour peut-être pour montrer comme à certaines personnes autour de moi qu'il y a comme d'autres façons de vivre le mouvement, ou il y a d'autres façons de qu'on n'a pas à se fouetter là,
de se regarder dans le miroir puis de faire ok, c'est correct.
Ouais, puis tu sais, comme je te disais tout à l'heure, je crie pas mon histoire sur les toits. Parce que, je veux dire, oui, ça fait partie de ma vie, mais je ne suis plus cette personne-là. Mm-hmm. Mais quand c'est le temps, j'aime ça la sortir comme ma petite carte efficace. Parce que, par exemple, je fais beaucoup de privé avec... j'ai une clientèle là, de tous les âges, tous les chemins de vie. Mais, entre autres, j'ai beaucoup de femmes, tu sais. Puis, des fois, j'ai des femmes qui viennent me voir. Puis, elles vont faire des commentaires sur leur propre corps. Puis, elles vont se dénigrer un peu à la blague, tu sais.
Mais ce n'est pas une blague. Ce n'est pas des blagues.
Non, mais elles utilisent un ton un peu rieur, mais je sais que c'est pas vraiment ça. Puis souvent, leur genre de blague se termine par « Ah, toi, tu peux pas comprendre, tu as 31 ans, tu es encore ferme, puis en plus, tu es entraîneur, tu peux pas vraiment comprendre. » Et là, de m'installer en me craquant les jointures et de leur dire « Voulez-vous qu'on en parle? » Parce que je peux vous dire que même à, je vais donner un point hypothétique, même à 90 livres, on est encore à 5 livres du bonheur.
Il y a, c'est jamais assez, c'est jamais correct.
Non! Non, et le travail n'est pas là. Fait qu'en fait, c'est ça, tu sais, je veux dire, et je trouve qu'il y a tellement de conversations à avoir de juste bien-être avec soi-même qui va juste après déteindre sur le reste, mais...
Écoute, j'irai comme conclusion, je ne sais pas si toi, tu les as lus. J'ai lu 3 livres dans les 2 dernières années que j'ai trouvé fort intéressants parce que leur façon d'aborder la chose était différente. Et je ne sais pas si tu connais ces titres. Je les écrirai dans le billet blog. Le premier, c'est Fasting Girls. C'est l'histoire, en fait, l'historique de la maladie anorexia nervosa. Je ne sais pas si tu connais.
Non, j'ai lu beaucoup de... Oui,
Oui,
vas-y.
j'imagine que tu en as lu beaucoup. En fait, c'est
Il y a quoi
juste.
là-dessus, en fait?
OK, ben, dans le fond, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est tout l'historique de la chose, comment. On peut voir ça sous différents angles, exemple à l'intérieur, pour juste prendre une idée. Il parle de l'anorexia mirabilis, donc c'était une forme de beauté spirituelle. C'était tout le côté de Dieu versus le fasting, dans le fond. Donc c'était d'utiliser ce qui était en fait un trouble alimentaire, mais pour Dieu. Il exprime là-dedans toutes sortes de façons que. Le trouble alimentaire, comme on le connaît aujourd'hui, a été utilisé à travers l'histoire des femmes pour aller chercher toutes sortes de choses, aller chercher soit l'attention, aller chercher des privilèges, mais aussi aller à chercher l'attention de Dieu. En tout cas, bref, j'ai trouvé ça fort intéressant de voir que ça peut être utilisé de différentes façons, qui n'étaient peut-être pas nécessairement non plus une bonne chose d'un point de vue santé physique et santé mentale quand il avec tout ce que l'on sait aujourd'hui. Donc, c'est plus un livre sur l'historique de la maladie. Il y en avait un autre aussi fort intéressant, It's Not About Food. Donc, le titre le dit bien, tu l'as dit si bien tout à l'heure, la nourriture
C'est
est un
pas la bouffe.
symptôme, c'est pas la bouffe. Dans le fond, c'est un médium, c'est un moyen, dans le fond, mais ça cache autre chose. Et à la page, quelque chose qui m'a déchiré le cœur, à la page 196, c'est le témoignage d'une femme qui disait avoir utilisé sa prise de poids comme protection, en fait, pour devenir non moins désirable aux yeux des hommes, parce qu'elle avait été de différentes façons agressée physiquement, et elle avait transformé son corps, dans le fond, en une carapace et une armure de chair. Fait que quand on disait tout à l'heure qu'il faut faire attention les mots utilisés, tu le disais tellement bien, on ne sait pas l'historique, on ne sait pas qu'est-ce qui se cache derrière le corps d'une personne. Mais ce qu'elle disait dans son témoignage, c'est ça, c'est ayant été agressée physiquement parce qu'elle était une très belle femme, elle se le faisait dire régulièrement, bien, elle a mangé pour prendre énormément de poids, pour être moins désirable physiquement, et elle ne s'est plus fait agresser par la suite, mais elle a développé d'autres problèmes d'estime de soi. Et un autre livre que j'ai trouvé fort intéressant à cause de l'angle, qui s'appelle Decoding Anorexia. C'était au niveau de la génétique du trouble alimentaire.
Ouais.
Donc, cette femme-là qui disait que elle, tout ce qu'elle avait lu et tout ce qui se disait sur les troubles anorexiques ne lui convenait pas, elle a fait beaucoup de recherches et elle a essayé de voir s'il n'y avait pas une source génétique du trouble alimentaire. Donc,
Un
j'ai
peu comme pour les problèmes d'alcool, par exemple.
exactement, et il y a justement, c'est tout à fait, c'est là que je m'en allais. Un documentaire de la CBC fort intéressant avec The Nature of Things, avec David Suzuki, qui s'appelle Wasted, Full-Length Documentary. On peut l'avoir sur YouTube en le tapant. C'est sur justement les problèmes d'addiction, l'alcoolisme. Ils ont vu avec des Magnetic Resonance Imaging, donc de la résonance magnétique. Ils ont fait dans le fond un mapping au niveau du reward circuit in the brain. Fait qu'ils ont vu dans le cerveau, dans le fond, ils ont fait un genre de map avec la dopamine, tout le côté, le reward and pleasures neurotransmitter. J'ai de la misère à le dire, pardon, mais c'est tout le côté des neurotransmetteurs avec la dopamine. Donc, ils ont vu qu'il y avait peut-être potentiellement un même trouble avec les troubles alimentaires. Donc, il y aurait certaines personnes qui auraient ce trouble génétique. Et si l'environnement alimentaire autour d'eux est là, mais ça va favoriser l'apparition, le déclenchement, dans le fond, de ce qu'ils ont en eux.
Honnêtement, je pense que c'est un angle assez intéressant parce que, je veux dire, je sais pas pourquoi j'ai développé ça alors que j'aurais pu choisir d'autres choses ou bien développer tout, tu sais, je veux dire, je sais pas s'il y a une personnalité type, mais je veux dire, en général, par exemple, les gens qui sont très, sais, perfectionniste, performant. Tu sais, c'est comme pas rare de voir ça, tu sais.
Ben, c'est un petit peu ce qu'elle disait dans son livre Déconnect Anorexia, c'est qu'elle disait, moi, j'ai regardé toutes ces choses-là, voir d'où c'est que ça venait, est-ce que j'ai une famille où j'ai été abusée. Elle avait rien de tout ça, puis elle disait, pourtant, je l'ai développé tout de même. Puis ce
Oui, parce
qu'elle.
que moi, j'ai pas d'historique de j'ai été enlevée, j'ai été abusée. Je veux dire, je dis pas que j'ai une vie parfaite, mais j'ai
Non,
aucun trigger monstrueux de dire, bien sûr, cette jeune fille va sombrer dans la drogue. Je n'ai rien eu de ça,
ben, c'est ce
mais
qu'elle
reste.
disait, ouais.
Ouais, mais ça reste que j'avais une personnalité, j'imagine, plus prône à ça. Je veux dire, j'ai un frère qui a été élevé par les mêmes parents dans les mêmes circonstances, puis je veux dire.
Ben, elle disait la même chose, puis dans le fond, ce qu'elle a découvert, c'est que, tu sais, dans notre passé d'être humain, de chasseur-cueilleur, charognard, potentiellement que ces gens-là, avec un gène comme celui-là, ont survécu davantage parce qu'ils avaient cette capacité-là à faire abstraction de la faim pour chercher, dans le fond, des sources de nourriture, mais de durer pendant des jours et des jours et des jours, peut-être plus que d'autres. Fait qu'à ce
J'aurais été
moment-là,
une méchante chasseuse-cueilleuse.
ben peut-être qu'à ce moment-là, ce gène-là, a permis à des êtres humains de survivre davantage que d'autres. Mais dans notre contexte où on est en surabondance alimentaire, dans un environnement qui te pousse sans arrêt, qui fait justement l'apanage de l'image avec une certaine caractéristique physique, certaines caractéristiques physiques, ben là, peut-être que ce gène-là devient au contraire, ne devient plus une chose positive pour la survie, mais au contraire, une tare. Donc, comme tu disais tantôt, une boîte de Pandore.
Ah, oh, vraiment, là? Vraiment, puis c'est hallucinant parce que, je veux dire, un truc, je pense, qui me fascine encore à ce jour, c'est de voir, je te parle même pas de résilience mentale, là, de résilience physique. L'être humain n'est pas fait pour mourir, OK? Moi, ça me fascine.
Ben en fait, il va, il est dû, il est programmé, mais bon.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que la capacité du corps
Ouais.
à s'adapter, puis à s'accrocher, puis à se reconstruire. Je regarde les choses que je faisais et que je ne faisais pas. Je comprends même pas comment
Comment c'est
je suis
possible?
revenue de ça, puis je comprends même pas comment j'ai fait tout ça.
Mais la capacité, le désir de survivre à tout prix, c'est fort. Puis certaines personnes semblent avoir cette capacité-là encore plus que d'autres. Ils ont une force,
Mais
une
c'est
détermination
fascinant,
incroyable.
là.
Tout à fait. Ben, écoute, je te remercie énormément de ton témoignage. Je te remercie de m'avoir donné cette opportunité d'en parler aussi ouvertement parce que. Comme je disais au tout début, je crois que pour certains milieux, pour certaines personnes, ça demeure encore un sujet très difficile à aborder pour toutes
Ouais.
sortes de raisons. Je dis pas qu'elles sont bonnes ou pas bonnes, mais pour toutes sortes de facteurs, c'est difficile à en discuter. Donc, je te remercie. Peut-être, écoute, en toute humilité, j'espère que ce témoignage va peut-être permettre à certaines personnes d'ouvrir le dialogue, de se reconnaître et de dire, OK, j'ai besoin d'aide, il faut que je fasse quelque chose. Je l'espère, je le souhaite.
Ouais, puis j'espère aussi que pour les gens qui entendent ça, puis que c'est pas eux qui sont atteints par la maladie, c'est que quelqu'un est près d'eux, puis qui aime beaucoup, puis que ça les déchire de voir
Tout
tout
à
ça.
fait, ça aussi.
J'espère que je prétends pas avoir cette capacité-là, mais je veux dire, j'espère que pour eux de voir une possibilité d'aller mieux, tout ça, puis d'inspirer ces gens-là peut-être à prendre soin d'eux aussi, en prenant soin du proche auquel ils tiennent, tu
Tout à fait,
sais.
ouais.
Ouais, vraiment. Parce que autant la personne que l'entourage, là, vraiment, ça prend beaucoup de patience, puis de douceur, puis de courage, là, c'est pas évident. Fait que, mais à tous les familles, puis les amis, là, courage, là,
Y a de
tout se fait,
l'espoir.
mais ça prend beaucoup de patience et de temps, et, mais
Beaucoup
c'est possible.
d'amour, beaucoup d'amour.
Vraiment, vraiment.
Autant pour soi, pour la personne qui le vit, que les
Totalement.
gens qui l'entourent.
Oui, absolument.
Ben, merci beaucoup, Audrey.
Ben, ça me fait hyper plaisir.
À la prochaine, on va se revoir, c'est certain.
Oui, ben oui, à bientôt.
Ciao,
Merci d'avoir été là. C'est toujours un privilège de partager avec vous mes connaissances et mon expertise. On se revoit bientôt. D'ici là, il vous est toujours possible de consulter la section ressources gratuites du site de slowtraining.ca pour les billets blog et podcast. N'oubliez pas également la chaîne vidéo privée pour les membres où vous avez accès depuis janvier 2017 à 138 vidéos originales exclusives. De nouvelles productions y sont mises en ligne régulièrement. Mon nom est Éric Blais, je vous dis à la prochaine fois.